terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Nancy Zack Bayou, bonjour.
Bonjour.
Alors, de Côte d'Ivoire, d'Abidjan.
Exactement.
Voilà. Donc, est-ce qu'en janvier, on rentre au pays là, pour la Coupe d'Afrique ?
Oh, on aurait voulu.
Ouais, mais ça va être difficile, n'est-ce pas ? De toute façon, c'est pas grave. Non, moi, je suis Camerounais. Donc, on va aller la chercher, puis on va la ramener au Cameroun. Et comme ça, on va garder nos bons rapports. Voilà. Nancy Zack Bayou, merci d'être là pour parler de... Voilà, j'ai dit tantôt en présentation de l'émission, j'ai dit on va parler de justice. Mais un volet particulier, c'est la justice, alors écoutez-moi bien, oudistique. Avec le mot oud, oudistique, c'est un projet, grosso modo, on parlera de quoi de justice réparative un peu, pour réparer les personnes noires. Et c'est un projet que vous portez sur vos épaules, que voilà, vous avez développé dans le cadre de Woodstock. Présentez-la juste de manière globale comme ça, est-ce que je suis correct ?
Oui.
Voilà, alors maintenant, moi, ce que je voudrais, j'imagine bien que quand on dit justice oudistique, il y a là-dedans un jeu de mots, parce que je m'attendais à ce que... Je pense qu'on voulait dire justice holistique, vous êtes parti de là, ou c'est vraiment oudistique ?
Oudistique.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que nous, on œuvre principalement au nord-est de l'île de Montréal. Mm-hmm. Et donc, on est dans le HUD, et donc c'est la justice pour le HUD, justice oudistique.
Mmh. Avant qu'on rentre proprement dit dans le projet, parlez-moi un peu de vous, votre parcours. Vous avez fait des études, je crois avoir vu, vous avez fait des études de droit à McGill. Donc, vous êtes plutôt une juriste, c'est ça?
Exactement. Avant d'aller à McGill, j'ai étudié aux États-Unis en sciences politiques, en économie et en langue française. Mmh. Puis ensuite, j'ai travaillé pour une banque d'investissement sur Wall Street. Et après, je me suis reconvertie après la crise de 2009. Et je suis allée étudier en droit à McGill. Mmh. Et donc, après ça, j'ai vu ce projet qui m'a sauté aux yeux. Puis je me suis dit que ça serait une bonne façon de combiner tous mes intérêts et de pouvoir redonner à la communauté.
À la communauté. Vous êtes partie de Wall Street pour travailler sur Woodstock.
Pas directement.
Pas directement, mais je vois un peu le lien. Parce que ces enjeux que vivent ces populations-là sont pour vous particuliers.
Nous, on dessert principalement des personnes noires, mmh, et des hommes. Et il y a une surreprésentation des personnes noires dans le système de justice aux États-Unis, mais aussi au Canada. Et donc, c'est à ça que Justice Oudistique veut pallier.
Alors, expliquez-nous un peu ça. Parce que quand on dit justice réparative, parfois, ça va sous différents aspects. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit ?
Donc, la justice réparatrice.
Réparatrice, oui, c'est ça. Pas réparative, réparatrice, pardon.
C'est un modèle de justice dans lequel les parties impliquées participent activement à régler leurs différends. Mmh. Donc, c'est une façon là où on implique les victimes et les personnes accusées dans la réparation du tort. Et justice oudistique a une nuance additionnelle à ce processus-là, là où on va vraiment vers la justice transformatrice. Donc, on veut aussi changer les institutions.
D'accord, c'est ça. Ça, vous ne vous arrêtez pas juste à trancher dans le cas de conflit, puisque vous dites victime et éventuellement les bourreaux, mais vous voulez aussi transformer.
Bourreau, c'est un mot qui est un peu dur. Des accusés.
Des accusés. Excusez-moi. Moi, je pars dans mon truc là. Je suis dans bourreau. Non, c'est juste que je pense à ça parce que quand j'ai vu justice oudistique, j'ai pensé. Je ne sais pas si vous avez, si vous connaissez, au Rwanda. À l'époque du génocide, il y avait je vais mal le prononcer, mais ça s'appelait les guachacha, quelque chose comme ça, des espèces de tribunaux populaires où on mettait les victimes et, alors là on va dire les accusés, et c'était comme une forme de guérison collective en fait. Est-ce que c'est dans le même esprit que vous êtes ?
Oui, la justice réparatrice, vraiment, on veut amener cet aspect de guérison-là, pas seulement la guérison de la victime et la guérison de la personne accusée, mais aussi la guérison de la communauté. Et donc, ça prend plusieurs formes dans différents contextes, mais au Québec, on a un programme qui s'appelle le programme de mesures de rechange générale. Mmh. C'est un programme qui est pan-québécois et qui est un programme de justice réparatrice. Et donc, justice holistique se veut intégrer dans ce programme-là en tant que mesure de sensibilisation, là où on se focalise principalement sur les personnes noires. C'est un projet qui est par et pour la communauté noire. Donc, on a plus un volet, une intervention qui est vraiment culturellement adaptée pour les personnes noires.
C'est ça que je voulais voir un peu avec vous. C'est-à-dire que, en quoi est-ce que ça a un plus par rapport à la justice, je vous dirais la justice classique, si je peux appeler ça comme ça. Oui. En quoi c'est un plus?
D'abord, la justice réparatrice, on doit comprendre qu'on va dans la communauté. Donc, au lieu du système classique d'aller devant un juge ou un jury, là, vraiment, on répare le tort dans la communauté. Et l'aspect que c'est un programme qui est par et pour la communauté noire, on le voit dans les évaluations du projet, quand les participants disent que le fait qu'ils se sentent vus, ils se sentent entendus, qu'ils se sentent compris, qu'il y a beaucoup d'injustices et de discrimination dans le système classique, mais qu'en participant à un programme ou un projet qui est par et pour la communauté noire, ils se sentent valorisés comme des êtres humains et non pas vus seulement dans l'angle de la criminalité ou de la victimisation.
Mmh. Alors, quand vous disiez tantôt que vous voulez aussi changer le système, c'est-à-dire quoi?
Donc, on le sait qu'il y a une surreprésentation des personnes noires dans le système de justice, mais on n'a pas assez de données ethno-raciales pour pouvoir faire un argument clair, parce que le gouvernement ne tient pas certaines données. Donc nous, ce qu'on essaye de faire dans notre projet, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher ces informations-là et de pouvoir amener un programme de justice réparatrice qui sera pour les personnes noires. Parce que maintenant, on a un PMRA, qui est un programme de mesures de rechange pour les personnes autochtones. Et notre argument, c'est qu'on aurait besoin d'avoir un programme de mesures de rechange pour les personnes noires, parce que la criminalité des personnes noires est différente à cause du profilage racial, à cause du racisme systémique, à cause de la discrimination que ces personnes-là vivent dans le système. Donc, ils ont besoin de personnes qui comprennent leur réalité. Ils ont besoin de personnes qui sont capables de leur donner des suivis qui sont culturellement adaptés.
Est-ce que ça existe quelque part, déjà?
Ce projet est unique au Canada,
okay,
dans le sens qu'on a vraiment une approche qui est afrocentrique et on amène la justice réparatrice.
Vous êtes parti de quoi? C'est parce que quand je dis est-ce que ça existe quelque part, est-ce que en dehors du Canada, bon, j'ai parlé des Guachacha au Rwanda, mais est-ce que ça existe quelque part d'autre?
Où est-ce qu'on s'est inspiré,
oui,
en fait?
Oui.
Donc, Hoodstock, historiquement, a toujours eu des forums sociaux, là où on prend le pouls de la communauté en leur posant certaines questions sur leur quotidien. Et en 2019, il y a eu un forum social là où on cherchait à répondre à la question de la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice, mais aussi du profilage racial. Et une des solutions que la communauté a amenées, c'était d'avoir un programme de justice réparatrice. Maintenant, on est allé dans plusieurs communautés, on a fait des recherches pour voir comment on pourrait monter un tel projet. Et à travers ce processus-là, on s'est inspiré aussi du programme de mesures de rechange pour les personnes autochtones. Donc, ils ont des cercles des aînés, là où la communauté est impliquée dans la réparation du tort. Donc, nous, dans notre projet, on a un cercle rudistique, là où le cercle social de la personne accusée et la communauté est impliquée dans la réflexion.
Et l'accusé aussi. Ah, d'accord.
Oui, est impliquée dans la réflexion de comment le tort va être réparé. Mais on utilise ce cercle rudistique aussi pour les victimes. Donc, quand la victime veut s'impliquer, il y a une médiation entre l'accusé et la victime, mais on inclut la victime dans cette réflexion à propos de comment le tort va être réparé.
Est-ce que ça peut ne pas être vu comme une justice parallèle?
C'est une justice qui peut être vue comme alternative.
Plutôt alternative.
Oui. Et le fait qu'elle est vue de façon alternative, c'est parce qu'on ne rentre pas dans le créneau classique de devant un juge ou devant un jury, mais c'est vraiment dans la communauté. Mais dans notre cas, ce n'est pas une justice qui est parallèle parce qu'on est mandaté par le ministère de la Justice du Québec et on fait partie du programme de mesures de rechange général.
Je voudrais qu'on parle un peu de quelques chiffres, parce que vous parliez justement du fait qu'il y a... c'est né d'un constat, c'est cette explosion de personnes noires judiciarisées, une fois qu'elles sont dans le système, et je comprends l'intérêt de vouloir changer le système. Est-ce que vous avez éventuellement quelques chiffres à donner pour que ceux qui écoutent comprennent un peu l'ampleur du phénomène? Est-ce que là-dessus, il y a quelques chiffres que vous pouvez nous donner?
Je n'ai pas de statistiques avec moi. Comme je l'expliquais, les données ethno-raciales à propos de la représentation des personnes noires dans le système de justice sont très difficiles à aller chercher parce qu'on ne les garde pas.
Mais quelqu'un va vous rétorquer, alors dans ce cas, Nancy Zakbayou, que vous n'avez pas de chiffres. Sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire qu'il y a une surreprésentation?
On a des chiffres, par exemple, au fédéral.
OK.
Donc, c'est-à-dire que la population noire représente à peu près 7 % de la population canadienne, mais elle représente à peu près 13 % de la population qui est incarcérée. Mm-hmm. Donc, on a quand même certains chiffres au fédéral, mais au provincial, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher ces informations-là.
C'est là où on n'a pas de chiffres, quoi.
Et dans certaines provinces, comme en Ontario, ils sont beaucoup plus proactifs à garder des données ethno-raciales pour pouvoir montrer un portrait qui est clair. Parce qu'on se rend compte que quand on n'a pas de données, ben on invisibilise le problème.
Alors là, vous avez, vous avez parlé tantôt en disant que c'est un projet, n'est-ce pas? Donc vous n'avez pas encore fini de le développer.
Oh si, il est en pleine... exploitation, si okay, on peut dire, okay. Donc implémentation. Mm-hmm. Donc, je peux vous parler des composantes du projet.
Peux
vous parler de... Donc, la façon dont ça fonctionne, quand une personne est accusée d'une infraction qui est admissible au PMRG, elle est référée à Woodstock et référée à Justice Houdistique si c'est une personne noire qui habite dans le nord-est de l'île de Montréal.
Okay.
Et ensuite, la personne va... passer à travers un parcours. Donc, elle va faire des retraites de guérison. Dans ces retraites de guérison-là, on sort de leur contexte, de leur environnement. On les amène ailleurs. On va dans un chalet à l'extérieur de l'île de Montréal, là où on a des ateliers afrocentriques. Donc, on a des ateliers de kasala. Le kasala, c'est un art poétique qu'on retrouve dans plusieurs pays en Afrique, mais ça s'appelle kasala au Congo. Et c'est là où on nomme la personne, on lui rappelle qui elle est, on lui rappelle qu'elle fait partie du lignée, qu'elle fait partie qu'elle n'est pas juste l'action qu'elle a commise qui était criminelle, mais que c'est vraiment une personne à part entière. On a des ateliers de yoga pour aider justement la personne à sortir de sa tête et à rentrer dans son corps et à libérer certains traumatismes qui ont été de façon psychosomatique gardés dans le corps. On a des ateliers d'estime de soi et d'introspection. Là, on fait de la méditation. On écrit dans un journal comment on se voit dans 5 ans, dans 10 ans, quel est l'impact de certaines choses qui sont arrivées dans nos vies. On a aussi des ateliers sur l'histoire des Noirs, mais pas dans la perspective de l'esclavage ou la perspective de la traite négrière. C'est vraiment dans la perspective de quel est l'apport des personnes noires dans la société québécoise. Et donc, après ces ateliers-là, là où la personne se reconstruit, pense à qui elle est, là, on a, avec sa communauté, avec son cercle social, on a des cercles rudistiques, là où on s'assoit et on accompagne la personne accusée dans sa démarche pour trouver comment elle va réparer le tort. Ensuite, on fait cette démarche-là avec la victime, si la victime veut s'impliquer. Et il y a une médiation entre l'accusé et la victime, si la victime veut s'impliquer. Ensuite, on a la personne répare le tort de la façon dont elle a choisi. Donc ça peut être faire des heures de service à la communauté, donc du bénévolat dans la communauté, faire un don dans un organisme. Ça peut être faire des suivis psychosociaux plus longs. Ça peut être une mesure de sensibilisation, là où elle fait du mentorat. Il y a plusieurs façons de réparer le tort.
CIBL 101.5 Montréal.
Terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Equala et son équipe. Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Je suis toujours en compagnie de Nancy Zach Bayou qui est venue nous parler de justice réparatrice. Hein? Elle a bien insisté parce que j'étais en train de dire n'importe quoi. C'est justice réparatrice et plus particulièrement ou plus spécifiquement la justice holistique. Voilà, c'est exactement ça. Nancy, juste avant qu'on aille à la pause, vous étiez en train de parler. Je rappelle que c'est dans le cadre de projet Woodstock et que c'est le PMRG, PM, comment vous dites ça encore?
Programme de mesures de rechange générale, voilà. PMRG.
Voilà, c'est ça. Dites-nous quelques mots là-dessus. C'est quoi exactement ce programme?
Donc, je veux juste revenir à la dernière chose que je disais avant de partir. Il y a une composante du programme qui est très importante, c'est les suivis psychosociaux. Okay. Parce qu'une interaction avec le système de justice a un impact néfaste sur la santé mentale des personnes noires. Et nous, notre projet est financé par Santé publique Canada. Donc, on travaille vraiment sur la santé mentale des personnes noires, même si c'est un programme de justice. Donc, pour revenir à votre question, le PMRG, c'est un programme qui est partout dans le Canada, dans le Québec, et qui est Equijustice, qui est un organisme, a été mandaté par le ministère de la Justice du Québec pour implémenter ce projet. Et donc, nous, on est un partenaire avec Equijustice et on implémente le PMRG, qui est un programme de justice réparatrice pour tout le monde.
Pour tout le monde, d'accord. Alors, là, vous avez parlé des composantes tantôt de ce projet-là. Je voudrais, de manière concrète, lorsque vous êtes arrivé à Montréal-Nord, que vous avez présenté ça aux gens, quel a été l'accueil de la communauté de manière globale en venant avec un projet comme celui-là?
Oui. Donc, cette année, en septembre, on a eu un forum social réunis pour guérir. Et on a parlé justement des résultats de la recherche qui a été faite à propos du projet. On a eu des personnes qui sont passées à travers le projet, qui sont venues témoigner de leur expérience. On a eu des formateurs dans le projet qui sont venus parler de leur expérience. On a eu un court-métrage qui a été fait à propos du projet, qui a été présenté. Et ça a été très bien reçu par la communauté. Donc, c'était une façon de boucler la boucle parce que le projet a été pensé comme une solution à la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice par la communauté de Montréal-Nord. Et là, on revenait après un an d'avoir passé à travers le programme, de l'avoir mise en exécution. On revenait avec des résultats pour la communauté.
À l'heure actuelle, vous diriez quoi au niveau de votre satisfaction? Donc, du bilan, vous vous direz
On a eu jusqu'à présent 7 cohortes et les cohortes peuvent avoir jusqu'à 5 personnes. Et
je vous arrête. Les 5 personnes, on parle de quoi? Vous dites quoi? C'est 5 victimes ou
5 accusés.
Accusés, oui. D'accord.
Et jusqu'à présent, toutes les personnes qui sont passées, qui ont décidé de faire ce projet, elles ont toutes complété le projet. Donc, quand tu complètes le projet, tu vois tes accusations abandonnées pour ne pas avoir de casier judiciaire.
Tout à fait.
Donc, ça change des vies.
Ça change des vies, surtout que derrière ça aussi, il y a le souci de réinsertion de la personne quand même dans la société que vous faites aussi.
Exactement. La plupart des personnes qui participent à ce projet travaillent. ou sont aux études. Donc, elles sont quand même, elles n'ont pas besoin de réinsertion sociale, mais ça contribue à changer leur image d'eux-mêmes. Mmh. Ça contribue à faire en sorte qu'ils aient plus d'opportunités dans l'avenir. Parce que quand on a un casier judiciaire, on s'entend que c'est difficile de pouvoir trouver du travail, c'est difficile de pouvoir se loger, c'est difficile de voyager. Donc, ça crée des barrières à une vie sociale normale. Donc, notre projet, en permettant d'abandonner les accusations, ça permet à une personne de ne pas avoir de casier judiciaire et de pouvoir continuer sa vie normalement. Mmh.
Vous disiez que la participation est volontaire. On va aller un peu avec des questions à rafale. Vous disiez que la participation est volontaire. Parce que j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez eu des refus ?
On a eu des personnes qui étaient éligibles, à qui on a parlé du projet, mais qui ne pouvaient pas pour plusieurs raisons. Souvent, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps. On va dans des retraites à l'extérieur de la ville. Donc, il y avait des jeunes pères de famille qui ne pouvaient pas laisser leur conjointe avec le bébé. On a eu des personnes qui travaillaient les week-ends, qui ne pouvaient pas venir à des retraites. Donc, pour plusieurs raisons, il y a des personnes qui n'ont pas élu de participer. Mais pour les personnes qui ont élu de participer, le taux de satisfaction est très grand. Et on évalue la santé mentale des personnes au début du projet et à la fin, on se rend compte qu'il y a une évolution extraordinaire dans leur conscience de qui ils sont, mais aussi dans leur santé mentale.
Mmh. Pour terminer, quelle est votre ambition avec ce projet-là? Je sais que vous voulez changer le système, mais au-delà, de manière concrète, quelle est l'ambition que vous avez pour ce...
On en a plusieurs. Okay. La première, c'est de pérenniser le projet. On a encore un projet pilote. On est dans notre deuxième année vraiment d'exécution, troisième année depuis qu'on a reçu le financement. Donc, on aimerait avoir plus de financement. Notre financement s'arrête en mars 2024.
Okay.
Donc, on a besoin de financement. On aimerait aussi qu'il y ait...
Le financement, j'imagine, il ne peut être que public. Les privés
non,
ne peuvent...
ils peuvent être...
Il peut être privé aussi?
Privé, d'accord. Oui, de n'importe quelle source.
Okay.
On a aussi l'ambition de pouvoir avoir les jeunes de 12 à 17 ans dans le projet. Donc, on est présentement en train de négocier avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour élargir le projet à des personnes qui sont mineures. Mmh. On aimerait aussi élargir le projet au Grand Montréal, pas juste au nord-est de Montréal, et pourquoi pas dans tout le Québec en ayant un programme de mesures de rechange pour les personnes noires.
OK. Comment est-ce qu'on vous rejoint? Parce que là, quand vous avez parlé de financement qui peut être aussi privé, particulier, comment on vous rejoint? Par Woodstock peut-être?
Oui. Si vous allez sur le site de Woodstock, c'est Hoodstock, Hoodstock.ca. Vous pouvez rejoindre l'équipe, vous pouvez faire des dons. Si vous voulez participer, vous pouvez vous enregistrer pour être bénévole. Si vous avez des contacts qui peuvent nous aider à avancer ce projet, sentez-vous libre de me contacter. Mes contacts sont sur le site web sous l'onglet équipe.
Bénévole pour Woodstock ou bénévole pour faire partie de la justice, du moins du projet de justice touristique?
Pour Woodstock en général.
Ah d'accord.
Parce qu'à cause de la confidentialité, on n'a pas vraiment d'interaction avec des bénévoles du public dans ce projet.
Okay.
Mais Woodstock, en général, on a toujours besoin d'aide.
Mm-hmm. J'ai dit que c'était terminé, mais il y a une dernière question qui me vient. Il faut être expert, quelque part, non, pour faire ça, je ne sais pas, participer au cercle et tout ça. Parce que, est-ce que moi, je peux me lever et puis participer à un cercle
de
justice judiciaire où il faut y avoir une certaine expertise à avoir, non, ou pas?
On a des membres de la communauté, on a des personnes qui travaillent directement dans le projet qui participent au cercle judiciaire. Mm-hmm. Donc, on a un intervenant socio-judiciaire qui participe.
Voilà, c'est ça, c'est ça que je pensais.
Dans le cercle. Mm-hmm. Mais on a aussi des membres de la communauté, donc l'organisme d'ESTA participe dans ce qu'on appelle... le comité des ex-détenus. Là, okay. On amène des personnes qui sont passées à travers le système carcéral, qui sont sorties de prison, qui viennent parler aux accusés pour leur dire « voilà mon expérience, c'est mieux de rester sur le droit chemin parce que c'est difficile de vivre avec un casier judiciaire ». On a des personnes de When the Village Meditates, un autre organisme avec lequel on travaille, qui souvent ont participé au cercle bouddhistique, en plus de, des membres de la famille de l'accusé, s'ils veulent qu'ils participent. Donc, c'est vraiment une façon d'impliquer la communauté dans le cercle et dans la démarche pour trouver comment est la meilleure façon de réparer le tort.
Tout à fait. Merci beaucoup Nancy Zagbaou d'être venue nous parler donc de cette de ce projet. Je rappelle encore Justice Bouddhistique, il est encore en état de projet pilote, raison pour laquelle il vous faut des fonds pour le développer, pour le pérenniser. Et à celles et ceux qui nous écoutent, pas besoin d'être dans une institution publique, on peut être une institution privée, on peut même être un particulier, un organisme, voilà, qui a envie de s'impliquer. Et je pense que ça ne peut être que pour le bien des communautés noires. Oui. Merci beaucoup. Et puis félicitations pour ce que vous faites.
Merci infiniment.
Bonne continuation.
Merci.
Merci d'être venu nous en parler. Mon nom est Cyril Ekwala.